La voie est libre. Alexandre Meyer.
Bonjour à tous et bienvenue dans La voie est libre. L'affluence des visiteurs dans les allées du Salon de l'Agriculture qui s'est achevée dimanche 2 mars dernier traduit l'attachement d'un grand nombre de Français à leur agriculture et au monde paysan, ses éleveurs, ses produits qui participent du prestige culinaire du rayonnement du pays dans le monde entier. Plusieurs tendances s'y affirment depuis des années, celle du bio, de la traçabilité des filières, du terroir, de la tradition. À l'opposé de ces principes, semble-t-il, la culture des OGM. Refuser les organismes génétiquement modifiés n'empêche-t-il pas la France d'améliorer son agriculture? La crainte des OGM est-elle justifiée? La France perd-elle en compétitivité sans les OGM? La réponse dans La Voie est libre. On va parler compétitivité, donc crainte aussi, risque sanitaire, émoi politique, émoi public sur cette question, celle des organismes génétiquement modifiés, avec mes invités qui sont aujourd'hui Marc Felous, bonjour.
Bonjour monsieur.
Vous êtes président de l'Association française des biotechnologies végétales, la FBV, professeur en génétique humaine au département génétique et développement de l'Institut Cochin de génétique moléculaire, spécialiste en hématologie, immunologie. Vous avez présidé la commission du génie biomoléculaire, en charge de l'évaluation des organismes génétiquement modifiés.
C'est exact.
Et vous allez nous en présenter quelques-uns. Un ouvrage avec lequel que vous êtes venu, Pourrons-nous vivre sans OGM, 60 clés pour comprendre les biotechnologies végétales, paru aux éditions Quae. Voilà, pourrons-nous vivre sans les OGM? Merci beaucoup d'être avec nous. Face à vous, Gilles Rivière-Weckstein, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes fondateur de la revue mensuelle Agriculture et Environnement, auteur de cet ouvrage Faucheur de science, les fanatiques sont dans nos campagnes. Vous nous direz quelles sont les décisions, on fera un petit tour d'horizon, des décisions politiques qui sont prises en la matière, des blocages ou des possibles ouvertures. On a entendu la semaine dernière le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, parler de l'autorisation potentielle, probable, des OGM de seconde génération. De quoi s'agit-il? Vous nous direz tout cela. Et par téléphone, Frédéric Jacquemart, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes président d'InfoGM, infogm.org, docteur en biologie. Vous avez créé le groupe international d'études transdisciplinaires. Vous êtes membre de la FRAPNA, la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature en Ardèche, une voix de l'environnement dans l'accompagnement des politiques publiques, et administrateur de France Nature Environnement que vous représentez au Haut Conseil sur les biotechnologies, dont vous êtes le vice-président du comité économique, éthique et social. Tous les liens vers les sites internet d'InfoGM, du Haut Conseil des biotechnologies, de la FRAPNA sont disponibles, ainsi que ceux de vos ouvrages, messieurs, Faucheurs de sciences et Pourrons-nous vivre sans OGM, 60 clés pour comprendre les biotechnologies végétales, disponibles sur le site internet radionotre-dame.net, à la page de l'émission de ce jour. Chers invités, un point sur la situation. Où en sommes-nous politiquement parlant? Quelle est la loi en ce qui concerne les OGM aujourd'hui, Gilles Rivière-Weckstein?
Alors aujourd'hui, théoriquement, le maïs Monsanto MON 810 est autorisé à la culture. Alors je rappelle que ce maïs a été...
Quelles sont ses vertus?
Attendez, je rappelle que ce maïs a été autorisé pour la première fois il y a 15 ans, que le pays qui était rapporteur pour présenter ce produit à la Commission européenne, c'était la France.
Oui.
Et qu'à l'époque, donc la France a jugé que ce maïs ne posait aucun problème pour la santé, aucun problème pour l'environnement. Et qu'il y a 15 ans, le gouvernement qui a donc donné cet avis, c'était le gouvernement de Lionel Jospin. Le secrétaire général à l'époque du Parti socialiste s'appelait François Hollande. Et tout le Parti socialiste à l'époque n'a eu aucun mot défavorable à cette décision. C'est donc d'autant plus grotesque qu'aujourd'hui, comme un homme seul, on voit le Parti socialiste mettre en route tout un nombre de procédures illégales pour interdire un OGM qui a été autorisé par le gouvernement de Lionel Jospin.
Pourquoi illégal?
Ah, parce que la France n'a pas le droit, par la loi, d'interdire un OGM. C'est l'Europe qui décide. Et donc la seule procédure possible, c'est de déposer une clause de sauvegarde qui contiendrait des éléments nouveaux, des faits nouveaux, qui permettraient à ce moment-là de dire, mais finalement, il y a des choses que nous n'avions pas pu évaluer à l'époque, et donc de revoir la procédure. Or, le gouvernement précédent a déjà déposé une première clause de sauvegarde qui a été retoquée parce que les éléments qui ont été mis en avant scientifiquement ne valaient rien. Elle a réessayé une deuxième fois toujours sans succès. Ça a même été retoqué par le Conseil d'État. Mmh. Et donc aujourd'hui, le gouvernement socialiste essaye de faire deux choses. De refaire une nouvelle clause de sauvegarde, mais avec des éléments qui ne semblent pas être très convaincants, puisqu'il n'y a rien de neuf. En tout cas, c'est ce que disent
les scientifiques. Pas convaincant, vous voulez, auprès de la communauté scientifique.
Auprès de la communauté scientifique. Oui. Et par ailleurs, pour sécuriser cette décision, le gouvernement a demandé aux sénateurs de faire voter en urgence une loi interdisant les OGM, mmh. mais le Sénat n'a pas suivi cette décision, puisqu'elle n'est pas, elle a considéré que, avec raison, que ce n'était pas du droit de la France de faire ce type de décision. Alors, le gouvernement poursuit et s'entête, alors qu'il sait que c'est illégal, que la France ne peut pas faire une telle loi. Elle a demandé aujourd'hui à l'Assemblée nationale de refaire cette même loi, de repasser cette même loi, et qui sera portée donc par le président du groupe socialiste. Donc on est dans une situation
un peu ubuesque
où on voit un gouvernement qui pousse les sénateurs et les députés à déposer une loi qui est illégale et ils savent qu'elle est illégale. Enfin, ouais. C'est quand même extraordinaire.
Pour satisfaire qui, peut-être, les membres Europe Écologie Les Verts du gouvernement à l'approche des élections municipal ? Est-ce qu'il faut y voir un calcul politique ou pas ?
Notamment, je pense que ça peut être un casus belli pour les Verts dans le gouvernement, mais je pense qu'on est rentré dans un vaudeville dans lequel il y a une sorte de jeu de rôle et dans lequel les gens n'arrivent même plus à s'en sortir. Ça veut dire qu'on a tellement menti au sujet de cet OGM qu'aujourd'hui, les gens sont pris dans leurs mensonges et ne peuvent plus en sortir. Parce que le paradoxe, c'est que parmi l'ensemble des OGM qui existent sur le marché international, celui-là précisément est un qui répond à des soucis d'environnement, puisque c'est un OGM qui est résistant à un insecte ravageur et qui permet donc d'épandre moins de pesticides. Ce n'est pas il y a des OGM, si vous voulez, qui permettent qui fonctionnent avec des pesticides. Celui-là, il donne une résistance à un maïs contre un insecte ravageur. Donc il est plutôt en faveur de l'environnement, il devrait plutôt être adopté au nom de l'environnement, mais par idéologie, par toute une série de montages intellectuels et politiques, on a fait comprendre à la population que les OGM, c'était diabolique et donc on peut plus s'en sortir.
Et on a une heure pour essayer de faire toute la lumière sur ce sujet. Vous parlez du maïs MON 810, effectivement doté d'un gène BT qui produit des protéines insecticides, voilà, issus d'un papayer d'ailleurs résistant à un virus. Voilà. 130 000 hectares ont été semés en 2012 en Europe de ce maïs MON 810, en Espagne, au Portugal, en Tchéquie. C'est pas le dernier casus belli, vous l'avez dit, entre le Parti Socialiste et les Verts auxquels on assistera après un premier round, on va dire celui de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes qui s'est soldé, on se rappelle, il y a moins de 8 jours, par le saccage de la ville de Nantes. Bon, la situation est quand même compliquée pour le gouvernement. Marc Felous, éminent représentant de la communauté scientifique dont parlait Gilles Rivière-Weckstein. Innocuité des OGM ou pas ?
Alors, je vais parler des avantages. Pourquoi les OGM ? Il faudrait élargir. Les OGM ne sont qu'un outil pour développer une agriculture. Donc, c'est un monde. Il y a des OGM. Et chaque OGM doit être analysé cas par cas. Deuxièmement, c'est un outil. Et donc, ça dépend comment on l'utilise. Si vous voulez, dans l'Ecclésiaste, que vous connaissez aussi mieux que moi, le fer peut être utilisé, comme dans l'Ecclésiaste le dit, soit par le sabre, soit par la charrue. Il ne faut pas condamner le fer, il faut condamner son utilisation. Et donc condamner les OGM, c'est condamner leur utilisation, mais au cas par cas. En quoi il peut être bénéfique pour le consommateur, pour l'agriculteur, voire pour l'industriel? Alors, pour l'agriculteur, cet OGM, d'après ce que les agriculteurs disent dans le monde, et certains agriculteurs français du Sud-Ouest, eh ben ça leur fait des plantes de meilleure qualité. Le maïs est de meilleure qualité. Pour le coton est de meilleure qualité. Et les gens en Inde, en Chine, qui font des tissus, des vêtements, vous disent clairement que le tissu lui-même pour faire ses vêtements est de meilleure qualité, il le réalise le même.
Moins gourmand en eau, enfin il s'agit de ce genre de modification.
Ça c'est un autre type d'OGM, mais on parle du OGM, oui, l'OGM qui dont on parle c'est le OGM résistant à certains insectes. Oui, donc pour l'agriculteur, il utilisera moins d'intrants, il fera des économies sur le nombre de pesticides à utiliser. Les chiffres sur le maïs BT démontrent que l'agriculteur utilisera 8% de moins de pesticides, donc 8% de moins à manipuler, et en plus les manipulations se font en deux temps et pas d'une manière éternelle. Donc l'agriculteur, il trouve un bénéfice, et d'ailleurs les agriculteurs dans le monde, on le voit par l'étendue, se développent. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est les pays en voie de développement qui utilisent le plus les agriculteurs. Ouais. Voilà pour les agriculteurs, je pense qu'ils sont très, très demandeurs. Maintenant pour le consommateur. Alors là encore, c'est le cas par cas. Mais je vais vous donner 3-4 exemples qui vous expliquent pourquoi c'est intéressant. Et je vais vous donner des exemples en santé, puisque je suis médecin. Alors le premier exemple, c'est l'hypovitaminose A. Ça tue 2 millions de personnes par an. Plus que le sida, plus que la tuberculose, plus que le malaria. Donc c'est vraiment un drame mondial. Et là, une équipe en Suisse, un universitaire...
Le manque de vitamine A.
Oui, l'hypovitaminose A. Voilà. Donc un universitaire en Suisse, donc c'est vraiment une université et pas d'industriel derrière, ont développé après 10 ans de recherche un riz qui complémente cette hypovitaminose A. Et avec ses progrès maintenant, un bol de riz par jour, c'est pas beaucoup, permettrait de faire que ces enfants ne mourraient pas ou ne deviendraient pas aveugles ou auraient d'autres malformations. Voilà un premier exemple. Et je ne comprends pas.
C'est le riz doré.
Le riz doré. Et je ne comprends pas pourquoi Greenpeace a envoyé des gens détruire ces expérimentations. On est dans la destruction. C'est quand même illogique. Quand on est contre quelque chose, pourquoi détruire, pourquoi introduire au contraire le dialogue?
Vous avez parlé d'outils. Claude Ménarat, agriculteur dans le Lot-et-Garonne, membre de l'Association Générale des Producteurs de Maïs, un céréalier donc, parlait lui de véritables boîtes à outils essentielles pour l'agriculture de demain. Avant qu'on reparle des fauchages volontaires, comme on les désigne d'ailleurs plutôt dans les prétoires et dans les médias, Frédéric Jacquemart, quelle est votre opinion sur ce sujet, sur l'innocuité des OGM?
Ce qui est très important pour nous, c'est que bon, ce débat commence d'une façon très classique et il souligne les problèmes que nous avons depuis 25 ans à nous faire entendre, c'est-à-dire qu'il y a une problématique qui est imposée par l'industrie depuis le début sur les OGM et qui est présentée comme la seule problématique possible et même nécessaire, puisqu'elle interdit aux élus de jouer leur rôle politique, et les événements actuels le montrent très clairement. En effet, c'est l'industrie qui a décidé en 1990 l'administration américaine de faire des évaluations des OGM parce qu'ils avaient peur que de balancer sur le marché des aliments qui étaient génétiquement manipulés ne passent pas dans la population. Il leur fallait donc un aval officiel et ils ont monté cette évaluation. Mmh. Et c'est une évaluation qui est strictement technique et qui en plus a été au moins largement écrite par l'industrie elle-même à ses propres fins, comme on a pu d'ailleurs le montrer avec des exemples très précis dans la publication que nous avons faite à OGM, qui s'appelle « Expertise des OGM, l'évaluation tourne le dos à la science ». Donc on est dans une problématique qui est strictement technique. Vous avez par exemple maintenant, le gouvernement français se trouve avec une obligation qui vient de l'Europe via cette mainmise de l'industrie sur la politique mondiale, qui l'oblige pratiquement à autoriser la culture de Mont 810 en France. Qu'est-ce qui se passe si on autorise demain le Mont...
Quels sont les dangers, Frédéric Jacquemart? Quels sont les dangers que représente, selon vous,
expliquer la façon dont on peut voir les choses autrement et non pas rentrer directement dans une problématique qui nous est imposée et qui ne nous convient pas. Donc on reprend le débat dans des termes sains. Le gouvernement actuel va se trouver avec une autorisation de Mont-810 cultivable, ce qui veut dire qu'il est obligé de mettre en place toutes les règles de coexistence et de ségrégation des filières OGM non OGM, ce qui entraîne un surcoût considérable pour aucun bénéfice sociétal. Je pense qu'en période de crise économique, ça peut lui poser un problème. Il ne peut pas, et ceci n'est qu'un exemple, parce qu'on n'a pas le temps de tout développer, mais ceci est un exemple, il n'a pas le droit d'utiliser cet argument pour dire, eh bien, cette OGM, nous, politiquement, ça ne convient pas. Si maintenant, on veut passer, si vous voulez, à une vision politique un peu plus ample, c'est-à-dire une réflexion globale sur la manière dont on peut mener une agriculture dont on voit bien maintenant qu'elle arrive à ses limites en ce qui concerne l'agriculture industrielle qui détruit la biodiversité d'une façon extrêmement inquiétante. On a donc à repenser les fondements même de cette agriculture. Eh bien, il faut effectivement faire quelques efforts, notamment cesser de cultiver les parasites avec les cultures, puisque si vous faites la même culture tout le temps, vous cultivez le parasite.
Mais Frédéric, avec. Mais Frédéric Jacquemin, attendez.
Donc, laissez-moi terminer.
Non, mais attendez, parce que le débat file, leur file, je suis absolument navré, mais leur file à toute vitesse, mais qu'il faudrait qu'on avance, on a beaucoup de choses à voir. Un agriculteur céréalier dit les OGM, pour l'agriculteur que je suis, je le cite, c'est produire plus, produire mieux, varier, utile, répondre aux exigences des industriels, certes, mais des consommateurs aussi.
Oui, mais je suis en train d'essayer de vous répondre, moi, si vous voulez écouter. Ce qu'il y a, c'est que vous êtes dans une problématique qui est technique, et nous disons que nous avons une problématique qui est beaucoup plus vaste. Or, ce que cet agriculteur peut vous dire, c'est son intérêt personnel à lui tel qu'il le voit, et on peut le comprendre.
S'il parle de l'intérêt des consommateurs...
Je suis en train, mais pour le consommateur, il n'y a pas d'intérêt à mettre du moins 810, il n'y en a aucun. Ça peut présenter un intérêt pour un agriculteur parce que c'est une solution de facilité. Et c'est justement ça qui est important.
Pour le consommateur, le maïs qui est pas protégé avec les mycotoxines. Et les mycotoxines, qu'est-ce que tu en fais des mycotoxines avec des taux qui sont tellement élevés qu'on est obligé de faire des mélanges maintenant pour nourrir?
Il y a un rapport de l'INRA qui montre qu'il n'y a aucun problème particulier.
C'est pas ce que me disent les experts.
Non. Cette histoire a été montée en épingle.
Frédéric Jacquemin, si on parle du seul intérêt, ce que vous dites, si c'est le seul intérêt que les OGM représentent, c'est pour l'agriculteur. Rapprochez-vous du téléphone. Dans les années 70, la France était à la pointe de la recherche et du développement dans le domaine de la génétique végétale. Aujourd'hui, les agriculteurs se voient balayés par une concurrence effroyable à l'échelle de la planète. Comment redonner à l'industrie française des semences, la compétitivité mondiale qui fut la sienne, en lui interdisant de rivaliser sur le même terrain que ses adversaires?
Mais on a
s'il n'y a pas de danger pour le consommateur.
On a actuellement, on arrive à la fin de l'agriculture industrielle. Donc vouloir en rajouter, c'est vouloir arriver dans le mur avant les autres.
Vous voulez dire qu'on va revenir à une culture vivrière individuelle à l'échelle du monde?
Dans quel pays est-ce qu'on arrive à la fin de ce système?
Il y a tout un tas de solutions agronomiques qui sont à développer, et là, la France, elle est absolument motrice dans ce domaine.
Elle est en perte de vitesse, des agriculteurs qui participent.
Elle est en perte de vitesse dans tous les domaines aujourd'hui.
Non, j'entends rien du
tout. On continue la conversation, effectivement. La question, c'était pour Frédéric Jacquemin, qui concerne, c'est Philippe Chalmin, professeur à l'Université Paris-Dauphine, ancien membre du Haut Conseil des biotechnologies.
Qui a démissionné parce qu'il y avait une mauvaise ambiance.
Il est composé de deux comités, ce Haut Conseil. L'un est scientifique, l'autre économique, éthique et sociale. C'est le vôtre, Frédéric Jacquemin. Il dit, lui, que la majorité au Conseil des biotechnologies est systématiquement acquise aux anti-OGM. Le seul essai OGM qui avait été autorisé, une vigne de l'INRA en Alsace, fut arrachée par des militants écologistes appartenant aux mêmes organisations siégeant au Conseil des biotechnologies. Est-ce que c'est normal?
Écoutez, bon, Philippe Chalmin est un pro-OGM tout à fait avéré, et il l'a montré d'ailleurs d'une façon tout à fait claire. Il y a au Conseil des biotechnologies diverses sensibilités au niveau du CEES qui sont exprimées, et elles sont là pour ça. C'est-à-dire que ce n'est pas un comité d'experts, c'est un comité qui a pour rôle de donner l'étendue des points de vue des acteurs de la société civile.
Mais sans expertise.
Donc, il n'y a pas d'expertise, on n'est pas expert. L'expertise est au niveau technique, au niveau du comité scientifique. Donc, voilà. Donc,
comment tu expliques qu'il est démissionné?
Je crois qu'il a changé de fonction.
Non, c'est pas pour ça.
Si, je suis désolé, c'est pour ça.
Et la plupart ont démissionné.
Alors là, d'autres ont démissionné, puisque il y avait un problème de compréhension. Mais là, je crois, je sais pas si on est parti sur le HCB ou si sur les OGM.
Non, mais ça veut dire qu'on
veut pas parler des problèmes importants.
On est dans la confrontation.
Bon. Alors, attendez. Dans ces cas-là, on va revenir à des chiffres.
Il y avait des gens qui voulaient faire de la négociation. Or, ils n'avaient pas compris le rôle du.
Qui est de faire du blocage systématique.
Comment?
Qui est de faire un blocage systématique?
Quel blocage?
Si vous dites que des gens l'avaient rejoint pour faire de la négociation, or
oui,
ça n'est pas le but.
Ben moi je te donne ça et puis tu me donnes ça. Non, c'est pas ça le HCB, c'était de dire voilà la position de la FNSEA, voilà la position de la Confédération Paysanne, voilà pour quelles raisons ils ont telle et telle chose, de façon à éclairer le gouvernement sur l'ensemble de la problématique et que le gouvernement prenne une décision en fonction de ça. Vous avez dit le CES autorise. Mais nous n'avons pas à autoriser ou quoi que ce soit. La pouvoir décisionnaire est politique. Donc voilà, et c'est ce qu'un certain nombre de gens n'ont pas voulu comprendre, et ils sont partis parce qu'ils n'arrivaient pas à imposer leur point de vue.
La réaction de Gilles Rivière-Weckstein.
Oui, en fait, dans la constitution même du HCB, à l'époque c'était fait après la suite au Grenelle Environnement, l'idée était bien entendu pour Nicolas Sarkozy, qui avait mis comme promesse de ne pas avoir d'OGM, d'avoir une structure qu'il avait constituée de manière majoritairement opposée, pour qu'il y ait systématiquement, face aux avis scientifiques, qui ne pouvaient être qu'en faveur, puisqu'il n'y a aucune raison technique et technologique pour empêcher ces OGM, c'était d'avoir une sorte de représentativité sociétale, sachant qu'elle était tout le temps en opposition avec les avis favorables des scientifiques. Donc ça permettait aux politiques de dire, il y a un comité scientifique qui est en faveur, mais la société, elle hésite, elle est contre, etc. Et donc moi, ben voilà, je suis la société. Donc ça lui permettait de justifier son opposition. C'était donc une construction qui a été faite de cette manière. Et c'est la raison pour laquelle, au bout d'un certain temps, les associations qui ont participé à cela, comme la FNSA, mais il n'y a pas qu'elles, ont finalement décidé de dire, on va arrêter de jouer ce jeu de dupes, ça ne sert à rien, laissons les scientifiques faire le travail d'évaluation, il est très bien fait, et pour le reste, des débats qui sont des débats purement politiques, ce n'est pas l'endroit pour les avoir. Je crois qu'on voit bien, avec l'intervention de M. Jacquemart, qu'au fond du problème, vous avez la question de l'agriculture de demain. Vous avez des gens qui défendent une agriculture compétitive, une agriculture dont la vocation est exportatrice, et c'est le discours aujourd'hui du président de la République, d'ailleurs, l'agroalimentaire, la fonction de l'agroalimentaire française dans le monde, etc. Et puis vous avez des gens qui voudraient revenir à une agriculture, comme vous l'avez dit, qui n'a pas de vocation exportatrice, qui ferait un petit peu de bio ici, un petit peu de local là, etc. Alors effectivement, si on est dans cette logique-là, certains OGM ne sont pas utiles. Je dirais même qu'en réalité, c'est même plus compliqué que ça, parce que si on veut vraiment faire du bio, de l'agriculture biologique, les OGM seraient une solution. Ça, c'est un autre débat, mais c'est une réalité. Donc en fait, vous avez derrière ce débat sur les OGM, un certain nombre d'associations qui sont hostiles à l'agriculture telle qu'elle est aujourd'hui défendu par la FNSA, certes, mais aussi par le gouvernement, vous voyez, qui veut une agriculture exportatrice. Et ces gens-là, comme ils n'arrivent pas à bloquer l'agriculture exportatrice par des lois, ils essayent de mettre de casser la boîte à outils qui permettrait à cette agriculture d'être compétitive. Et effectivement, bon, le Monsanto 810 permettrait une hausse de rendement dans quelques endroits de 5 à 10 quintaux à l'hectare, dans certains endroits. Mais ce n'est pas, l'enjeu n'est pas le Monsanto 810. L'enjeu, ce sont les OGM qui vont venir, car vous en avez maintenant, mais des dizaines et des dizaines qui sont en train de sortir, et les uns les plus intéressants que les autres. Mmh. Or, bien entendu, on essaye de ne pas avoir ce débat en France, parce que face à ce type d'OGM-là, là, on est mal. Pour vous donner un tout petit exemple, vous avez une société française qui aujourd'hui met ses blés à disposition des scientifiques, des blés de qualité, met à disposition aux scientifiques argentins, de manière à ce qu'ils puissent développer un blé argentin, mais d'origine française, qui sera résistant à la sécheresse, qui sera plus résistant à la salinité, et ils sont aujourd'hui dans le processus d'homologation de ce blé. Donc le comble du comble, c'est que nos propres variétés de nos semenciers à nous vont se retrouver en Argentine, et alors que nos propres agriculteurs français ne pourront pas les utiliser. Et le comble du comble, c'est que nous ne pourrons même pas interdire ces OGM de venir nourrir les Français.
C'est là où je voulais en venir. La perte de compétitivité et la crainte des OGM, justifiées ou non, sont intimement corrélées, dans la mesure où on peut avoir peur de les exploiter chez nous. Néanmoins, aujourd'hui, et là, la perte de compétitivité est criante, 23 millions de tonnes de soja transgénique sont importées pour nourrir cochons et volailles franco-françaises. On parle des repas qu'on distribue quotidiennement dans l'industrie alimentaire, dans la prestation de services, les entreprises et ailleurs. 33 produits génétiquement modifiés sont autorisés, mais uniquement à l'importation.
Donc on voit bien,
mais on n'en produit pas chez nous.
On voit bien que la question sanitaire ne tient pas la route. Un instant, si ces OGM représentaient le moindre risque pour la santé, y compris la santé des animaux, on aurait tout l'arsenal nécessaire pour empêcher leurs importations. Or, si on ne peut pas empêcher leur importation, c'est bien que ces OGM qu'on refuse de produire en France ne représentent strictement aucun risque pour la santé alimentaire des animaux et des êtres humains. Il faut le dire et
Marc,
le redire.
Marc Felous, puisque je vous avais reçu l'année dernière pour parler du rapport Séralini qui a fait pchit, c'est moins qu'on puisse dire, que c'est peut-être la nocivité ou pas. Combien de recul avons-nous?
Je vais compléter ce qu'a dit mon collègue Gilles. Vous savez que nous importons un très grand nombre de poulets du Brésil.
Oui.
Parce qu'ils sont, d'un point de vue financier, très compétitifs. Et pourquoi ils sont compétitifs? Parce qu'ils sont nourris par des aliments OGM. Et c'est parce que c'est des produits qui sont à moindre prix, de qualité meilleure et de rendement supérieur aux produits que nous utilisons dans nos fermiers en Bretagne. Et c'est là un deuxième exemple d'importation de produits à bas prix, parce que justement ils utilisent les techniques d'aujourd'hui pour nourrir le bétail. Mais je voulais revenir sur les problèmes de santé, puisque c'est ça qui m'intéresse. Un exemple d'OGM qui va venir bientôt sur le marché et qui se fait pas en France. Parce que ces interdictions, ces destructions d'expérimentation, elles ont pour effet, c'est que la recherche sur ces outils ne se fait plus en France. Quand vous discutez avec les responsables de l'INRA, ils vous disent qu'effectivement, les chercheurs ne veulent pas utiliser ces techniques parce qu'ils savent que leurs expériences seront détruites. Donc nous perdons tout un savoir-faire qui aurait été l'auréole de notre science française et qui aurait été quelque chose que nous aurions pu exporter dans certains pays qui sont très très proches de notre recherche. Je fais allusion
à
l'Afrique.
Les OGM, on peut s'en inquiéter parce que le nom organisme génétiquement modifié, néanmoins, quelle différence y a-t-il entre une vache laitière Primolstein, fruit de croisement sur plusieurs décennies ou générations, qui aboutirait à une variété qui fournirait le lait optimal qu'on mange tous les jours dans les yaourts ou le camembert, et un OGM comme le blé ou...
Si vous voulez, pour faire cette vache laitière Holstein, il a fallu une dizaine d'années par les agronomes hollandais, ouais. Alors qu'avec la technique des OGM, on va beaucoup plus vite en l'espace. On le fait pas pour les animaux pour l'instant, encore que ça s'est fait pour certains porcs ou pour certaines chèvres, ces OGM, mais c'est uniquement dans un but de recherche. Mais
si vous voulez, notamment
Médical
notamment
Médical, pour produire de l'interféron, pour produire des médicaments. Mais
pour ce qui est des plantes, c'est évident que faire ce qui a été fait pour la vache Holstein et pour les plantes nous ferait gagner des années.
On va rester là-dessus, on va marquer une très très courte pause et on revient à ce sujet dans un instant. Faut-il interdire, continuer d'interdire les OGM ? La réponse dans une poignée de secondes. À tout de suite. La France perd-elle en compétitivité sans les OGM, les organismes génétiquement modifiés ? Est-ce que le refus de s'en servir, de les cultiver sur notre territoire, n'empêche-t-il pas la France d'améliorer son agriculture ? La crainte aussi du grand public, que nourrit le grand public, à tort ou à raison, est-elle justifiée ? Les risques sanitaires sont-ils avérés ? On en parle avec Frédéric Jacquemart, qui est en ligne avec nous par téléphone, président d'InfoGM, www.infogm.org, avec Marc Fellous, président de l'Association française des biotechnologies végétales, auteur de « Pourrions-nous vivre ?» Sans OGM, 60 clés pour comprendre les biotechnologies végétales, publié chez Quae, et Gilles Rivière-Weckstein, fondateur de la revue mensuelle Agriculture et Environnement, auteur de Faucheurs de Science, Les fanatiques sont dans nos campagnes, un livre enquête publié chez Le Publieur. Voilà. On retrouve Frédéric Jacquemart, qui est en ligne avec nous par téléphone. Docteur, les risques sanitaires dont on parlait il y a un instant, cette nécessité peut-être de faire correspondre notre agriculture aux nécessités du monde. Qu'en pensez-vous ?
Pour ce qui concerne l'aspect sanitaire, il est totalement faux de dire que parce qu'on ne voit rien de manifeste, tout se passe bien. Tant qu'on n'a pas des conditions de traçabilité et de comparaison, on ne peut pas l'établir. Et ça, il faudrait quand même arrêter d'utiliser ces arguments-là qui ne sont pas valides. Encore une fois, pour nous, le problème sanitaire n'est pas du tout le problème majeur. Bien entendu, si on met des choses qui sont aussi nouvelles que les OGM sur le marché, il faut s'assurer que ce que l'on peut essayer de voir, de découvrir comme toxicité n'existe pas. Bon, mais ce n'est pas le problème. Le problème des OGM, encore une fois, c'est un problème de société. Vous parlez de compétitivité. Eh bien, cette compétitivité, vous la présentez comme un a priori incontestable. Or, nous préférerions, nous, être dans un monde de coopération, puisque nous sommes dans un monde qui va très mal, dans lequel la diversité du monde vivant est profondément altérée, ce qui pose vraiment des questions fondamentales dans la politique mondiale, et on n'est plus dans un système où il s'agit d'être meilleur que l'autre ou d'aller plus vite que l'autre. Mais il s'agit au contraire de gérer ensemble un environnement extrêmement difficile, dans une situation rendue difficile également par une population qui est extrêmement importante. Et c'est encore une fois un débat au niveau des OGM qui a été totalement perturbé et privé de son sens. Et nous aimerions, nous, qu'un jour, enfin, nous puissions discuter des vraies choses, c'est-à-dire du contexte dans lequel ces OGM ont été créés et dans quelle philosophie ils ont été créés. Et avec les conséquences que peuvent avoir cette philosophie sur la conduite politique au niveau mondial.
La question de la diversité, Marc Fellous, effectivement, et de la logique qui préside à la création, à la diffusion
des OGM.
J'entends
rien du
tout. Est-ce que vous pourriez nous en donner quelques-uns ? On a parlé du riz doré. Cette logique est-elle celle du consommateur avant tout ? Et effectivement, le jour où l'on trouve un blé surefficace, est-ce que la diversité va en pâtir ?
Oui, écoutez, c'est un bon exemple, le blé, parce que c'est quand même ce qui nourrit la plus grande partie de notre monde européen, puisqu'il est à la base du pain. Or, sachez que 10% des Français, des Européens, souffrent d'une maladie grave qui s'appelle la maladie cœliaque. Ça touche les enfants qui ont des diarrhées importantes, qui n'arrivent pas à grandir. Et si on leur enlève pas le pain, il y a des risques de cancer de l'intestin très importants. Et aujourd'hui, la recherche qui ne se fait pas en France, mais qui se fait tout près, en Espagne, à Valence, à l'université de Valence.
Pardonnez-moi, pour faire simple, c'est l'allergie au gluten.
L'allergie au gluten.
Au gluten.
Voilà. Oui, c'est ça. Oui. Donc, cette recherche ne peut pas se faire en France, pour les raisons que nous avons discutées. Et donc, elle se fait tout près en Espagne. Et l'université de Valence est en train de travailler avec succès d'un blé où on est en train d'enlever le responsable de cette allergie qui s'appelle la gliadine. Donc, avec des techniques d'OGM et là, vraiment de deuxième génération, c'est-à-dire qu'on est capable de rendre silencieux le gène que l'on veut dans une plante. Oui. Ici, on rend silencieux le gène qui produit la gliadine et qui est responsable de cette maladie intolérance au gluten.
Oui.
Et les résultats qui sont publiés déjà, il y a eu trois communications très intéressantes, sont extrêmement encourageantes et vont permettre à des millions d'enfants en France et dans l'Europe de pouvoir manger un pain sain, de pouvoir faire des fêtes, de manger comme tous leurs amis des gâteaux en grande compagnie, de manger du chocolat, etc. Voilà, voilà un bon exemple de OGM de deuxième génération et santé dans notre pays.
Frédéric Jacquemart, vous vouliez réagir sur le sujet de ce pain sans gluten.
Oui, parce qu'on est typiquement dans le cas, je veux dire, la maladie cœliaque a été multipliée par un facteur important ces dernières années du fait de la sélection moderne qui se base uniquement sur quelques caractères pour assurer sa production.
Ceci est faux, Frédéric, ceci est faux parce que tous les blés, même les blés anciens, contiennent de la gliadine.
Parlez un peu.
Ceci
est faux.
Frédéric Jacquemart.
La gliadine est présente dans tous les blés, même anciens.
Cette intolérance au gluten a été multipliée au fur et à mesure de la sélection des blés.
Non, c'est présent dans les blés anciens.
Mais justement,
On est dans la problématique générale qui est qu'on compte sur la technique pour pallier aux problèmes générés par la technique. Et non, parce que la technique va générer des problèmes qui sont multiples. Et quand on est dans une croissance exponentielle comme celle qu'on est, dans laquelle on est actuellement au niveau de la croissance technique, eh bien, il faut s'attendre à ce qu'effectivement les effets secondaires imprévus augmentent d'une façon absolument considérable. Donc encore une fois, il ne s'agit pas de répondre au cas par cas et de dire tel truc comme ça, moi j'ai la solution, mais bien de repenser la dynamique générale dans laquelle on se trouve.
C'est bien entendu.
Course infinie à l'aveugle. Et c'est bien de ça qu'on parle, justement.
Mais dans ces cas-là, il faut aussi qu'il y ait des règles. Il faudrait faire des règles du jeu.
Et notamment dans cette émission.
Dans ces cas-là, autant fixer des règles du jeu communes. C'est peut-être pas au cours de cette émission qu'on y parviendra, mais c'est promis, on y reconsacrera une émission, c'est entendu. Gilles Rivière-Weckstein.
Oui, là, on voit encore un exemple où c'est bien un problème de choix de société, puisque même quand on parle, quand on propose des solutions de biotechnologie, soit avec un riz enrichi en vitamine A, soit avec un blé sans gluten, on voit que l'idéologie prend le dessus et que tout de suite la réaction c'est non, 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 on n'en veut pas. Donc on voit bien que l'opposition aux OGM est une opposition de principe et idéologique et que cette idéologie qui est derrière, il y a derrière un projet de société, c'est ce que je dénonce dans mon livre, c'est pour ça que j'appelle les gens qui fauchent les OGM des faucheurs de science, parce qu'ils ont un projet politique. Ce projet politique, il est ultra minoritaire en France. Il est porté par 1, 2, 3% de gens simplement. Ces gens n'arrivant pas à faire passer leur projet politique n'ont rien trouvé de mieux que de...
Par la voie démocratique de la représentation.
Exactement, puisque vous prenez les Verts, je crois, aux dernières élections présidentielles, ils ont fait moins de 3%. Or, c'est un peu leur projet politique, la décroissance, etc., la convivialité, la non...
Donc ils ne jouent pas le jeu républicain.
Du coup, non, ils jouent le jeu républicain, mais du coup, ils n'ont rien trouvé de mieux que d'essayer de mettre des freins technologiques. C'est pour ça que tous ces gens-là sont hostiles à tout. Ils sont hostiles à la construction d'autoroutes, ils sont hostiles à la construction d'aéroports, ils sont contre l'énergie nucléaire, ce sont des gens qui sont des héritiers de mai 68 pour beaucoup. Vous savez, c'était une époque où on disait il faut interdire d'interdire, et le seul mot qu'ils ont à la bouche aujourd'hui, c'est moratoire, interdire. Et derrière ça, il faut bien comprendre, derrière l'opposition aux OGM, il y a un projet de société, et ce projet de société n'est pas compatible avec le projet actuel du président de la République.
Une société qui exige, encore une fois, on n'en jugera peut-être pas ce matin, mais qui exige une forme de consommation aseptisée, Marc Felous, est apparue aux États-Unis une pomme, notamment, pour lutter contre le gâchis, une pomme qui ne flétrit pas.
Oui, c'est encore un beau
par
travail.
Quel mystère.
C'est un beau travail de la recherche. Ils ont essayé de comprendre pourquoi quand on coupe une pomme, au bout de quelques minutes, quelques heures, elle devient brune et elle est moins appétissante. J'ai oublié son nom. Vous vous souvenez de son nom? Non. Bon, c'est pas très grave.
Et donc, je la connais pas.
Ils ont essayé de comprendre pourquoi cette pomme brunisse. Donc, c'est un travail de science, de scientifique, et ils ont compris qu'il y avait un métabolisme qui permettait la diminution d'une enzyme. Et donc, la réponse qui a été faite, on va réguler cette enzyme. Et aujourd'hui, nous avons, si cet OGM pomme est accepté, une pomme que nous pourrons couper et garder assez longtemps dans notre assiette ou dans notre frigidaire.
Je voudrais juste rappeler que c'est quelque chose d'essentiel parce qu'aujourd'hui, dans les cantines, par exemple, les enfants ne mangent plus de pommes parce qu'on est obligé de leur donner une pomme en entier qu'ils ne consomment pas. Donc la moitié, voire les trois quarts de la pomme est jetée. Or, on ne peut pas couper et leur donner des carrés de pommes parce que le temps qu'ils la prennent, elle va brunir. Donc on aurait là une solution pour permettre aux enfants de manger des pommes, plus de pommes. Encore un bon exemple d'un OGM, que bien entendu les anti-OGM vont trouver une raison particulière qui fait qu'il y a un risque particulier avec
ces
pommes.
C'est une golden qui s'appelle Arctic.
Arctic,
ouais, voilà, oui, Arctic, développée par une entreprise canadienne pour être distribuée notamment dans la restauration rapide.
Ouais, exact. Ouais. Je voulais maintenant aborder le problème qui est important, c'est que les biotechnologies végétales, c'est pas que les OGM. Les OGM, c'est ce qu'on appelle en biologie la transgénèse, c'est-à-dire transférer un gène d'un organisme à un autre organisme, d'une pomme à une pomme, d'une patate à une patate, de Monsanto, de maïs Monsanto, où on prend un gène de bactéries. Mais je voudrais dire que le plus intéressant dans les biotechnologies végétales, c'est d'autres domaines. Aujourd'hui, on est capable aujourd'hui de connaître le génome d'un très grand nombre de plantes. Et connaître le génome, c'est intéressant. On va pouvoir comprendre pourquoi certains maïs anciens résistent mieux que d'autres. On va isoler la biologie de cette résistance et éventuellement la transférer à des maïs de consommation. Le deuxième, d'autres exemples, c'est ce que j'appellerais et qui est controversé par les opposants, c'est ce qu'on appelle la mutagénèse. C'est un domaine très intéressant parce qu'aujourd'hui, nous avons des outils très puissants pour aller modifier l'expression de n'importe quel gène d'une manière très précise. Alors, les opposants disent que ce sont des OGM cachés. Mais alors, si c'était les OGM cachés, pourquoi accepter que la plupart de nos légumes dans le marché proviennent de la mutagénèse? J'ai la liste ici. Les pamplemousses actuelles, les pommiers, les cerisiers, les pêchers, les abricotiers, les laitues.
La clémentine.
Oui. Ce sont des produits qui n'existaient pas naturellement et que l'homme, par la mutagénèse, spontanée ou provoquée, a isolé. Donc voilà un deuxième outil très important qui probablement supplémentera les OGM. Mmh. Parce que, avec cet outil de mutagénèse, qu'ils appellent OGM caché, on va pouvoir manipuler le gène sans rajouter un autre gène. Et d'ailleurs, ça pose un problème aux opposants, c'est qu'on ne pourra plus les distinguer des produits conventionnels, puisqu'on ira manipuler sans laisser de traces. Donc il y aura toute une nomenclature à faire, toute une expertise à faire pour...
Gilles Rivière-Beckstein, et on écoutera Frédéric Jacquin.
Et là, ce qui est intéressant, c'est que les autres pays dans le monde sont en train de se doter d'un arsenal juridique et d'évaluation pour justement essayer de voir comment évaluer ces futurs OGM de deuxième, troisième, quatrième génération, alors qu'en France, ce qui se passe, c'est qu'on perd cette expertise, même l'Europe est en train de perdre cette expertise, donc nous ne pourrons même plus nous-mêmes juger s'il y en a un qui nous intéresse ou qui ne nous intéresse pas. Tous les autres pays du monde sont en train de mettre en place le cursus législatif pour pouvoir savoir faire le tri entre ce qui est souhaitable, ce qui n'est pas souhaitable. Donc le repli de la France sur elle-même, le repli de la France, vers une France nostalgique des années 60, tout ça c'est beau, mais malheureusement ça n'existera pas.
Et je le disais, Frédéric Jacquemart, au lancement de cette émission, le ministre de l'Agriculture envisage d'entrouvrir la porte aux OGM de deuxième génération. C'est donc, selon vous, une fausse route qu'il semble emprunter?
Je voudrais d'abord faire remarquer que M. Rivière-Beckstein n'est pas du tout idéologue, hein, ça s'entend bien. Voilà, alors ce genre d'argument vaut ce qu'il vaut, je laisse les auditeurs en juger. Encore une fois, vous posez des questions d'une manière qui ne nous convient pas. Il ne s'agit pas de dire d'avoir des a priori sur tel ou tel évolution technologique, nous disons le problème n'est pas posé correctement par rapport au problème du monde moderne. Par conséquent, nous n'avons pas à nous prononcer dans la problématique actuelle là-dessus. Ne nous faites pas dire que nous nous prononçons. Simplement, nous ne voulons pas aller trop loin dans une voie qui est manifestement une impasse. Donc c'est pour cela qu'il y a ce frein qui est mis et qui est demandé. Mais ce que nous voulons, c'est non pas que nous allions directement nous occuper, comme le fait Marc Fellous, au cas par cas, de tel ou tel OGM avec tel ou tel intérêt dans la problématique classique, et c'est bien de repenser le mode global de notre propre évolution. Mmh. Et ça, c'est urgent. Encore une fois, cette technologie... Laissez-moi parler.
On vous écoute. Frédéric Jacquemart, on vous écoute. On vous écoute, vous avez la parole, Frédéric Jacquemart.
Bon, mais très bien.
Alors, allez-y.
Mais oui. Donc, le fait est que nous sommes dans un état où la biodiversité disparaît à un rythme qui est mille fois supérieur au taux de base, l'état des océans est absolument catastrophique. Tout cela, c'est le résultat d'un mode de pensée réductionniste et techniciste dont les OGM sont un des à la fois exemples et aboutissants. Donc on ne peut pas dire nous avons raison, nous, technocrates, et alors même que ce résultat est manifestement délétère. Donc c'est bien cette manière globale de penser qui est à remettre en question. Et nous n'avons pas, contrairement à ce que dit M. Rivière-Weckstein, qui a un peu tendance à écrire l'histoire tout seul, et pour lui-même et en fonction de ses intérêts personnels, nous n'avons pas de projet de société, parce que ce projet de société, pour le créer, il faudrait l'inscrire dans la problématique actuelle, ce qui serait totalement contradictoire. Il s'agit bien de demander à ce qu'un vrai débat soit enfin mené sur des problèmes qui sont vitaux pour nous tous, et aussi bien pour moi, Frédéric Jacquemart, que pour Marc Fellous ou M. Rivière...
Ou le tiers-monde.
Parce que nous sommes absolument dans le même bateau, donc il ne sert absolument à rien d'aller se bagarrer pour des questions idéologiques ou d'intérêt personnel. Nous sommes dans une crise mondiale, et tant que on n'aura pas compris cela, eh bien on ne pourra pas discuter. Et nous voulons discuter de cela. Et il est bien clair que si on me demande tel ou tel OGM, est-ce que ça a un tel ou tel intérêt, ça ne m'intéresse pas. Parce que la question est simplement mal posée. Elle ne correspond pas à la problématique dont nous avons besoin.
Donc vous êtes bien d'accord avec moi, c'est un débat de société, et pas un débat sur les OGM.
C'est un débat de société.
Exactement,
c'est un débat de société.
Eh ben donc nous sommes tout à fait d'accord. Simplement, je vais un tout petit peu plus loin que vous, car je pense quand même que derrière l'écologie politique, qui est quand même elle est porteuse d'un projet de société. Je ne vois pas en quoi c'est dogmatique d'affirmer que Cécile Duflot, que les Verts sont porteurs d'un projet de société. Mais ils le revendiquent eux-mêmes.
Les Verts, ça regarde les Verts, je ne suis pas Vert, moi, et les associations ne sont pas Verts. Nous avons publié en multi-association des positions qui sont tout à fait claires là-dessus. Nous n'avons pas de position politique. D'ailleurs, nous travaillons avec l'ensemble des politiques. Nous avons travaillé avec le gouvernement de droite, nous travaillons avec le gouvernement de gauche. Si on a du centre, on travaillera avec ceux du centre. C'est pas nous qui choisissons. Et là-dessus, nous n'avons pas d'engagement autre que à titre personnel, bien entendu, et nous n'en faisons pas état au niveau de nos associations. Sauf cas, hélas, qui arrivent, mais qui sont des cas très gênants. Il ne faut pas tout mélanger.
Je voulais intervenir parce que notre gouvernement a décidé d'orienter l'agriculture de demain vers ce qu'il appelle l'agroécologie intensive même. C'est intéressant comme débat et comme idée, c'est-à-dire intégrer l'agriculteur avec le consommateur, avec l'environnement, avec l'économie. J'ai eu une longue discussion avec Michel Griffon, qui en est un des principaux auteurs. Et dans cette agroécologie de demain, il est clair que la génétique est présente. On ne peut pas envisager l'agriculture de demain avec son versant agroécologie sans la génétique et l'isolement de plantes en fonction des conditions de culture.
On restera sur cette idée et on reconsacrera bien entendu des émissions, des voies libres à ce sujet très vaste. Merci à chacun d'entre vous d'avoir participé à cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à Frédéric Jacquemart, président d'InfoGM, www.infogm.org, l'adresse du Haut Conseil des Biotechnologies, hautconseildesbiotechnologies.fr, dont il est vice-président. Merci Marc Felous, votre ouvrage « Pourrons-nous vivre sans OGM, 60 clés pour comprendre les biotechnologies végétales ». Merci Gilles Rivière-Weckstein, votre ouvrage « Faucheur de science, les fanatiques sont dans nos campagnes », publié aux éditions Le Publieur. Merci à tous, merci excellente à journée, à
merci,
très bientôt.
Merci.
Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotre-dame.com.
Parole d'évêque. Tous les jours, un évêque différent répond aux questions de la rédaction de Radio Notre-Dame à 10h03 et 20h28. Actualité, vie de l'Église, la vie du diocèse décryptée par un évêque de France. Parole d'évêque, c'est tous les jours à 10h03 et 20h28 sur Radio Notre-Dame.
Regardez votre fenêtre. Vous ne voyez rien ? Là, vous avez vu tous ces euros qui passent à travers ? Hop là !